إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى وفضله قراءة شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ما زلنا في باب إذا نصح العبد لسيده. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. طيب، فهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه المسلم في صحيح أيضا. دونك بوسوي إن شاء الله تعالى ليكسبليكاسيون دو الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى بغ الشرح كم دابيتود دو نوبل الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى. Et on est toujours dans le chapitre 103 intitulé Lorsque l'esclave fait preuve de nusr envers son maître. On avait expliqué que le nusr ou le nasiha, ici ça a le sens donc de loyauté, de perfection dans le travail fourni pour le maître, ainsi que l'absence de toute trahison et tromperie. Vous voyez ? Donc on poursuit dans ce chapitre-là. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, le hadith numéro 203, Muhammad ibn Sallam nous a rapporté et a dit, Al-Muharibi nous a informé. Donc Al-Muharibi, c'est Abdurrahman ibn Ziyad, transmetteur fiable de hadith. Il a dit, Salih ibn Hay nous a rapporté et a dit, un homme a dit à Amir al-Sha'bi, ô Aba Amr, certes nous discutons au sujet de l'homme qui a franchi la mère de son fils et ensuite l'a épousé. Il est comme celui qui a monté sa chamelle, yani, ou sa vache. Badana, yani, sa chamelle ou sa vache. Il faut savoir ici que la version, d'autres versions, en fait, viennent clarifier le propos qui est donc, nous discutons au sujet de l'homme qui a franchi, yani, un matin, qui a franchi, yani, son esclave femme, d'accord ? Son esclave femme. Et ensuite, l'épouse, il est comme quelqu'un qui a monter, yani sa bête, ici plus précisément sa chamelle ou sa vache. Taïb. Donc le sujet ici, c'est celui donc qui a affranchi son esclave femme et l'a épousée. Taïb. Donc il dit à Amir. Il dit ici Amir. D'accord, rahimahullah ta'ala. Haddathani Abu Burda. Donc Abu Burda m'a rapporté. Donc Abu Burda, c'est le fils de Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Donc sa kunya, c'est Abu Burda. Abu Burda, il dit, m'a rapporté selon son père, donc selon le compagnon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur a dit, trois personnes ont deux récompenses. Trois personnes ont deux récompenses. Donc, qui sont-elles? La première, un homme faisant partie des gens du livre qui a cru en son prophète, d'accord? Qui a cru en son prophète envoyé aux gens du livre à leur époque et qui a cru aussi à Mohammed, alayhi salatu wassalam, il a deux récompenses. On va expliquer après un peu plus en détail, inshallah, le hadith. Puis il dit, la deuxième personne, l'esclave, lorsque il honore le droit d'Allah ainsi que le droit de ses maîtres. Et la troisième personne, un homme qui a auprès de lui une esclave femme, qui a eu des rapports avec elle et qui l'a éduquée, qui l'a instruite, Jaïd, et lui a donné la meilleure des instructions, lui a enseigné et lui a donné les meilleurs des enseignements. Ensuite, il l'a affranchi et l'a épousé. Lui, il a également deux récompenses. Et il dit à la fin du hadith, Amir, radiallahu anhu wa rahimah, il dit, nous vous avons donné yani, cette information-là ou ce hadith sans rien en contrepartie. D'accord? Alors que il faut savoir que les gens faisaient des voyages jusqu'à Al-Médina pour des informations qui étaient moindres que cela. D'accord? Pour des informations et des paroles qui étaient peut-être moins importantes ou qui avaient moins de valeur que celle-là. Bye. Non. فمعاني الكلمات ثلاثة لهم أجران وذلك لأن الأجر على قدر المشقة. Donc lorsqu'il dit le prophète ici, alayhi salatu wassalam, trois personnes ont deux récompenses. Donc ici, pourquoi deux récompenses? Eh bien, parce que la récompense est en fonction et proportionnelle à la difficulté. D'accord? قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران وهو مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق فإذا بعث نبينا عليه الصلاة والسلام فإيمان هذا الكتابي به مستمر فكيف يتعدد حتى يتعدد أجره مؤمن أهل الكتاب له أجران إذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وإذا لم يؤمن فلا أجر له فهذا ما دل عليه هذا الحديث وفيه تضعيف الأجر مرتين للمؤمن من أهل الكتاب. Donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, donc la première personne qui a deux récompenses, un homme parmi les gens du livre, qui a cru en son prophète et qui a cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a deux récompenses. Donc cet homme-là, c'est un homme, un croyant, bien sûr, qui fait partie des gens du livre. D'accord? Et pour qu'il ait deux récompenses, il faut bien sûr qu'il croit forcément en son prophète, mais qu'il croit aussi en notre prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci en vertu du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a pris cet engagement-là des gens du livre et ce serment, ce pacte des gens du livre de croire en le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque notre prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé, eh bien, si la foi de ce qui t'habille, de cette personne, des gens du livre, yani, demeure sur la foi qu'il doit avoir, qui est de croire en tous les prophètes, et parmi eux, donc le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, sa récompense va se multiplier par deux. D'accord? Donc, comment ça? Eh bien, tout simplement parce que le croyant parmi les gens du livre aura deux récompenses, à condition, bien sûr, qu'il ait pu atteindre l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'ait cru en lui. En revanche, donc, s'il ne croit pas en le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, il n'aura aucune récompense. Il n'aura aucune récompense. Taïeb. Donc, c'est ce qui est ici prouvé et indiqué notamment par ce hadith. D'accord? Donc, on a dans ce hadith la multiplication de la récompense du croyant des gens du livre par deux. Jayyid, pour celui qui croit bien sûr en son prophète et aussi au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et plus généralement en tous les prophètes. Wal-abdu al-mamlouk idha adda haqq Allah wa haqq mawalihi. Fihi aydan tad'ifu ajri al-mamlouk idha adda haqq Allah wa haqq mawalihi. Puis il dit, et l'esclave, lorsque bien sûr il respecte le droit d'Allah, et le droit de ses maîtres. D'accord? Donc ici, dans cette parole-là, on a également la multiplication de la récompense de l'esclave à condition qu'il respecte le droit d'Allah ainsi que celui de ses maîtres. Wa qawluhu alayhi salatu wassalam fa'addabaha. At-ta'dibu kama huwa ma'lum lahu maratib wa ihsanuhu at-ta'dib a'la maratibi wa kadha at-ta'lim lahu maratib wa ihsanuhu at-ta'lima à la maratibihi. Puis on passe à la troisième personne qui est un homme qui possède donc une esclave femme qui a des rapports donc avec elle et qui lui donne la meilleure des instructions, des éducations et le meilleur des enseignements. D'accord? Donc ce qui est connu, dit le cheikh, que l'enseignement ou l'instruction a plusieurs degrés et plusieurs niveaux. Donc celui qui excelle et qui procure la meilleure des éducations, le meilleur des enseignements, hein, eh bien cela est donc le meilleur degré, le meilleur niveau d'instruction, le meilleur niveau d'enseignement, yani, qui soit. D'accord? وقوله فله أجران في نهاية الحديث أي كرره النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما بإعلام الأجر اهتماما بإعلام الأجر ليتنافسوا فيه. Donc à la fin du hadith, on voit que le prophète il a répété encore une fois falahu ajran. D'accord? Alors qu'il avait déjà dit au début lorsque il a dit trois personnes ont deux récompenses. À la fin du hadith, il dit encore cela ou celui-là a deux récompenses. Donc les savants ils disent il a répété ainsi pour montrer yani, l'importance de ce sujet-là et pour informer de la récompense afin que les gens se concurrencent en cela. Taïb. Non. وقال أعطيناكها بغير شيء يعني هذا كلام عامر أعطيناكها بغير شيء يعني هذه الفائدة التي تضمنها الحديث وقد تضمن الحديث فوائد وما كان ليأخذ على التحديث أجرا ولا أن يحصل عليه مقابلة ولكنه يقول أعطيناكها بغير شيء أي بغير بذل مجهود منك بدليل قوله بعد وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة يعني إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا يسافرون شهورا لأجل تحصيل حديث واحد وإن كان هذا المجهود قليلا في جنب ما يساويه حديث النبي عليه الصلاة والسلام. Donc on voit ici, on va expliquer la parole de Amir à la fin du hadith, après qu'il ait donc mentionné, après qu'il ait mentionné la parole du prophète alayhi salatu wassalam, il dit, nous t'avons donné sans rien en contrepartie. D'accord? Donc nous t'avons donné quoi ici? Cette faïda, cet enseignement qui est contenu dans ce hadith. Et tous les enseignements que possède ce hadith, donc, on te les a donnés sans sans rien en contrepartie de cette transmission. D'accord? Ici, on parle bien sûr, sans rien en contrepartie, des choses de la dunya. Wa illa fal-ajrul-ukhrawi hasan lahu. D'accord? Mais bien sûr, si on parle de la récompense de l'au-delà, il n'y a pas de doute que l'amer est récompensé par cet enseignement, par la transmission de cette faïda, de ce profit, donc en faveur de ses frères et sœurs en islam et de toute la communauté. Taïb, rahimahullahu ta'ala. Mais donc, il dit, nous t'avons donné sans rien contrepartie. C'est-à-dire, on te l'a donné cette faïda sans que tu n'aies fourni aucun effort. Sans que tu n'aies fourni aucun effort pour l'avoir. D'accord? Et la preuve de cela, c'est sa parole lorsqu'il dit, وَقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِي مَدُونَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. C'est-à-dire que pour des paroles qui sont moins importantes que celles-là, les gens prenaient leur monture et faisaient des voyages jusqu'à Al-Médine, c'est-à-dire la Médine, Médine, la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Les gens faisaient même des voyages qui duraient plusieurs mois des fois pour aller rechercher un seul hadith. Pour aller rechercher un seul hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils prenaient leur monture et faisaient des voyages qui duraient des fois un mois entier. Taïeb. Donc ici, il dit, je t'ai donné des hadiths sans que tu n'aies fourni aucun effort. D'accord? Il faut savoir que même si la personne fournit un effort qui est de faire un voyage de un mois, eh bien en vérité, cela n'est rien comparable, comparé, pardon, cela n'est rien comparé à la valeur de la parole du prophète, du hadith prophétique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من طاعة والنصيحة له أجران فهذا الحديث أخرجه المصنف في الصحيح. On passe au hadith suivant, le hadith 204, dans lequel dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn al-Ala nous a transmis et a dit, Abu Usama nous a transmis selon Buraid ibn Abdullah, selon Abi Burda, selon Abi Moussa. Donc ici encore une fois, on a Abu Burda qui est le fils de Abu Moussa al-Ash'ari. Radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'esclave qui excelle et qui fait preuve d'excellence dans l'adoration de son Seigneur et qui honore ce qui lui est obligatoire d'honorer comme obéissance en faveur de son maître et comme nasiha, c'est-à-dire comme loyauté dans le travail. Encore une fois, on le répète, nasiha ici, par rapport au maître, c'est la loyauté, l'absence de trahison et la perfection dans le travail fourni. Eh bien, celui-là, cet esclave-là, il aura deux récompenses. D'accord? Il aura deux récompenses, par rapport aux difficultés, comme nous l'avons déjà mentionné. Donc, le hadith, rapporté par l'auteur dans As-Sahih, « فهذا الحديث كالحديث الذي قبله » بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم تضعيف أجر المملوك الذي أدى حق ربه عليه وحق مواله. Donc on a vu donc déjà ce qu'il y a dans ce hadith, dans les hadiths précédents, dans lesquels le prophète صلى الله عليه وسلم a exposé donc la multiplication de la récompense de l'esclave qui non seulement honore le droit de son Seigneur tabarak wa ta'ala, qui lui sont obligatoires, et le droit donc de ses maîtres. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه صلى الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مالكه الذي يملكه. فهذا الحديث صحيح وهو كالذي قبله. Et encore une fois, le hadith suivant, qui donc concerne exactement le même sujet, il dit al-Bukhari, Moussa, al-Tabouzaki, yani, nous a rapporté et a dit, Abdul Wahid nous a rapporté et a dit, Abu Burda ibn Abdillah ibn Abi Burda nous a rapporté et a dit, j'ai entendu Abu Burda. Donc j'ai entendu Abu Burda, le fils de Abu Moussa, rapporté selon son père, c'est-à-dire Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'esclave a deux récompenses lorsqu'il honore le droit d'Allah tabarak wa ta'ala dans son adoration, ou, dans une version il dit également, où il a dit, il aura une récompense s'il honore le droit d'Allah dans la perfection ou dans sa bonne adoration pour Allah tabarak wa ta'ala et le droit de son maître qui est son propriétaire. Donc le hadith il est authentique aussi. Et il contient donc les mêmes enseignements que les hadiths ou les versions précédentes. Na'am. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب العبد راع حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل راع في مال أبيه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الحديث أخرجه المصنف في الصحيح وأخرجه مسلم في صحيحه كذلك. Donc, il dit l'imam al-Bukhari, le chapitre suivant, numéro 104. Il dit, chapitre, l'esclave est un responsable. Al-Abd Ra'in. Donc, Ra'in, Ra'i, on va traduire par quelqu'un qui est responsable. D'accord? Taïe. Donc, il dit al-Bukhari, rahimahullah, Ismaïl ibn Abi Owais nous a rapporté et a dit Malik m'a rapporté. Donc, c'est qui Malik ici? C'est l'imam Malik ibn Anas. D'accord? L'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Selon Abdullah ibn Dinar, selon Ibn Umar, radiallahu anhum. Donc, il y a qui ont rapporté que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous êtes tous des responsables. Ra'in. D'accord? Vous êtes tous des responsables. Des gens qui ont sous leur responsabilité d'autres personnes. Et vous serez tous interrogés au sujet de, justement, des gens qui sont sous votre responsabilité. Il dit donc, El Emiru, donc le dirigeant, le chef qui a sous sa responsabilité donc un peuple, un pays, Jayid, il est un responsable et il sera interrogé sur ses citoyens. L'homme est un responsable par rapport aux gens de son foyer, de sa maison. Et il sera interrogé sur son foyer, sa maison, sa famille. L'esclave de l'homme est un responsable sur les biens de son maître et sera interrogée sur les biens de son maître. La femme est également responsable de la maison de son mari et elle sera interrogée. Donc il dit ici le narrateur, j'ai entendu donc ces gens-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je pense que le prophète a dit aussi, Warrajulu, et l'homme est responsable des biens de son père. Et l'homme est responsable des biens de son père. Ala kullukum ra'in. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés au sujet de ces gens-là qui sont sous votre responsabilité ou ces biens matériels également qui sont sous votre responsabilité. Tayeb? Non. Donc ce hadith, il est authentique, il est rapporté par donc l'auteur lui-même dans un sahih ainsi que l'imam muslim dans son sahih. Non. معاني الكلمات قوله العبد الراعي من رعى رعاية وهو حفظ الشيء وحسن تعهد أو حسن تعهد له والعبد الراعي أي مكلف برعاية عمل ومؤتمن عليه ومأمور بالقيام عليه بالعدل. Donc le titre du chapitre qui est العبد الراعي, l'esclave est un responsable. Donc, ra'in, qui vient du verbe ra'a, et du masdar ri'ayatan, donc il veut dire se charger de quelque chose, s'occuper de, prendre en charge quelque chose. Ou également le fait de protéger quelque chose, la protection de quelque chose. En arabe, on dit ri'aya. Hein? Ou le fait de parfaire également la gestion, d'accord? Ou la protection pour. Quelqu'un ou une personne. هذه يسمى رعاية. En arabe, on dit رعايةً. Et le verbe, c'est رعا, يرعا. جيد. Donc, l'esclave est responsable. C'est-à-dire qu'il est responsable du soin ou de la qualité de son travail. Il est responsable de la qualité, de la loyauté, de son travail ou dans son travail. D'accord? Et c'est la personne, donc, à qui on a confié ce travail-là et qui se doit donc de faire preuve d'équité, de faire preuve de justice et d'honnêteté dans son travail. D'accord? Non. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمير أي ذو الأمر كالإمام الأعظم إمام العامة ومن دونه. Donc la première personne qu'il cite ici le prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il dit الأمير. Le dirigeant, le gouverneur. D'accord? Donc, celui qui détient le commandement. Donc, bien sûr, le gouverneur, yani celui qui se trouve à la tête d'un pays ou d'un État, c'est un émir. D'accord? Mais cela concerne également tous les chefs qui sont inférieurs au gouverneur du pays, d'accord? Et qui ont des responsabilités qui ont été donc données par le gouverneur lui-même. Voyez? الرجل راع على أهل بيته يطعمهم ويكسوهم ويعلمهم أمور دينهم ودنياهم ويأمرهم وينهاهم ويحملهم على أمر الله رب العالمين. Puis il dit, l'homme est un responsable sur les gens de sa maison, sur son foyer. Autrement dit, il doit les nourrir, il doit les vêtir. Il doit leur enseigner les choses de leur religion, également les choses de la vie terrestre. Il doit leur donner des ordres, leur interdire des choses. Il doit les inciter, les amener à respecter les ordres d'Allah, tabarak wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Na'am. وقوله هو عبد الرجل وفي رواية في الصحيح الخادم في الصحيح الخادم بدل العبد فالعبد الراعي في مال سيده وأولاده وكل ما تحت يده ويد سيده من المال والأولاد والمتاع والدواب فيلزمه حفظها وصيانتها إن كان مأمورا به
ولا يتصرف خلاف ما يريد من الإنفاق وطرقه. فالراعي حافظ مؤتمن ملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظه. فالحفظ والصلاح مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه.
نعم. Donc sa parole ici, la parole du prophète alayhi salat wa salam, est l'esclave de l'homme est un responsable sur les biens de son maître. Il faut savoir que dans une autre version, il dit al-khadim. Donc al-khadim, c'est un mot qui est plus général que al-abd. Al-abd, c'est l'esclave. Al-khadim, ça inclut l'esclave, mais ça inclut également les gens qui travaillent pour de l'argent. D'accord? Donc des gens qui ne sont pas esclaves, qui sont libres, mais qui travaillent pour une personne, hein, en contrepartie d'un salaire. En arabe, on dit également al-khadim. D'accord? Qui travaille en contrepartie d'un salaire. Donc l'esclave, il est responsable par rapport au bien de son maître, à son argent, mais également à ses enfants, et tout ce qui est donc sous sa responsabilité ou la responsabilité de son maître.
C'est bien.
C'est bien, oui. Hein? Donc, c'est bien, ses enfants, ses affaires, sa maison, ses bêtes, s'il en possède. D'accord? L'esclave doit prendre soin de tout ça qui appartient, toutes ces choses-là qui appartiennent donc à son maître. Donc il doit les préserver, les protéger, en prendre soin. Si son maître lui demande, il est obligé d'obéir à son maître. Et il n'a pas le droit d'en disposer d'une façon contraire, Jayed, à ce que son maître lui a demandé, comme dépense ou comme façon de les dépenser. Donc, Ra'i, le responsable, c'est un protecteur. C'est quelqu'un en qui on a placé une mission, une tâche, une confiance, et qui se doit donc de faire preuve de loyauté, d'honnêteté par rapport la protection de ces choses-là. D'accord? Et donc la protection, la qualité de cela, elle est exigée à travers donc l'honnêteté, l'équité, la justice et de tout ce qui va donc permettre, Jayit, de maintenir ou d'entretenir ce qui appartient donc à son maître. Wahakadha. والمرأة دورها في الإسلام دور عظيم فأثرها فيه كبير جليل وذلك بتدبير شؤون المنزل وبتربية أولادها وبحفظ عرضها ورعاية مال زوجها والقيام بأمر ربها سبحانه وتعالى. Puis dit le prophète صلى الله عليه وسلم, et la femme est responsable par rapport à la maison de son époux. Et elle sera interrogée. D'accord? Donc le rôle de la femme dans l'islam, il est immense. Et ses répercussions sur la société, hein, sont également grandes et importantes. Et cela donc à travers le fait que la femme se doit de gérer, de s'occuper des choses de la maison, relative à l'éducation de ses enfants, de la protection de son honneur, d'accord, la protection également des biens de son mari, et bien sûr du fait de respecter les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Fama yukhadhu min al-hadith. Awalan, bayanu anna المسؤولية عامة. المسؤولية عامة في المجتمع الإسلامي، وهي متوزعة على أصحابها على حسب المستطاع. المسؤولية الكبرى التي تقع على كاهل الإمام هي رعاية الشعب. رعاية الشعب حق رعايته بإقامة الحدود
ونشر العدل وحظهم الالتزام بالدين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى رب العالمين، وحياطة الملة ورعاية الرعاية والتزام أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on tire de ce hadith le fait que al-mas'ouliya, la responsabilité. La responsabilité, en fait, elle est générale et elle concerne toute la société islamique. Tous ceux qui sont inclus dans la société islamique ont une responsabilité. D'accord ? Donc cette responsabilité-là, elle est départagée donc sur les membres de cette société-là en fonction de leur capacité. En fonction de leur capacité, de leur rôle et de leur place dans cette société. Donc la plus grande responsabilité, elle incombe à qui ? Elle incombe aux épaules de l'imam, c'est-à-dire du dirigeant, du gouverneur. D'accord ? Dont la responsabilité est de protéger le peuple. Et de protéger le peuple comme il se doit, notamment en mettant en application les peines légales légiférées dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, en diffusant la justice, en incitant les gens à s'accrocher à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, en luttant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, en préservant la religion d'Allah, ainsi que tous les membres, tous les citoyens qui composent la société musulmane, et bien sûr, il doit les encourager et les inciter à s'attacher aux ordres d'Allah tabarak wa ta'ala et à ceux du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالأمير الذي على الناس راعٍ الأمير الذي انعقد له الولاية على الناس أو على قطر من أقطار المسلمين يعتبر مسؤولا عن القطر الذي بسط يده عليه مسؤولا عن مصالحهم الدينية بالدرجة الأولى وعن مصالحهم الدنيوية ومنها نصرة المظلوم وردع الظالم والتأمين السبل وتيسير ما يستطيع من خيرات الدنيا والآخرة فهو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن ذلك وهكذا المسؤولية جاءت موزعة من الشارع الحاكم من الشارع الحكيم. Donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, donc le gouverneur dont la gouvernance a été établie sur les gens est irresponsable. Est irresponsable. Donc sur les gens ou sur un pays parmi les pays des musulmans. Donc il est considéré comme étant un responsable d'un pays ou du pays qui est sous son autorité. Vous voyez ? Et il sera donc interrogé sur les profits qui vont toucher ces pays-là, les profits religieux, bien sûr, en priorité, mais bien sûr également les intérêts ou les profits qui sont relatifs à la dunya, à la vie terrestre. Et parmi eux, donc, le fait de secourir celui qui est victime d'une injustice, al-mazloum, d'empêcher et de repousser l'injuste, de sécuriser les routes, de faciliter, il y en a tout ce qui est possible comme bienfait de la dunya ou de l'au-delà. Donc il sera interrogé devant Allah tabaraka wa ta'ala sur tout cela. Donc c'est ainsi que al-mas'ouliya, la responsabilité, elle est départagée de la part du législateur suprême, le sage, qui est Allah tabaraka wa ta'ala. فالرجل في بيته مسؤول عن أهل بيته وكل من تحت يده من أبناء وزوجة أو زوجات ومن تحت يده من خدم ومماليك هو مسؤول عنهم هل قام بالحقوق التي لهم عليه أم قصر في ذلك؟ والأمر عظيم والخطب جسيم. Donc l'homme, dans sa maison, il est interrogé et responsable des gens de sa maison. Donc tous ceux qui sont sous sa, sous son autorité, les enfants, la femme ou les femmes, ainsi que les travailleurs, les servants, les esclaves, il est interrogé. Il est responsable et serait interrogé à leur sujet. Est-ce que il a honoré le droit de chacun d'entre eux ou est-ce qu'au contraire il a négligé ces droits-là? Donc, on voit ici que l'affaire elle est grave, d'accord? L'affaire elle est grave et la question elle est très importante. Non. ومن جملة المسؤولين عن حقوق العبد المملوك مسؤول عن مال سيده الذي وضعه في يديه أو جعله حارسا له أو أمينا عليه فهو مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى فإن أدى فيه الأمانة نجا وإن خان أو قصر أو غش فإنه يعاقب بقدر ما جنى من المعصية. Donc parmi les ce groupe de responsables des droits, on a l'esclave, l'abd. On a l'esclave, qui est donc responsable et interrogé sur les biens de son maître que son maître a mis dans ses mains. Ou qu'il a fait de lui donc un gardien de ses biens. Ou quelqu'un de loyal, quelqu'un en qui il a placé sa fidélité. Donc il sera interrogé sur ça. Devant Allah tabaraka wa ta'ala, si il a honoré donc sa mission, il sera sauvé et sera épargné. Mais s'il aura trahi ou négligé ou trompé, il sera puni donc en fonction de ce qu'il a commis comme désobéissance par rapport à son maître. Allah ta'ala a'lam. نعم. وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي فيه توزيع المسؤوليات على أصحابها بجملة عامة ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فما بقي أحد إلا وهو داخل في هذا العموم فهو يرعى رعية سواء أكانت كبرى كالأمير ونحوه أم كانت دون ذلك كالرجل في أهل بيته والرجل في من تحت يده عموما والذي ليس تحت يده شيء فهو مسؤول عن نفسه كيف عامله وتعامل معها هل سعى في فكها من عقوبات الله بفعل طاعته وترك معصيته أو أوبقها بالتقصير في طاعة الله وارتكاب معاصي الله تبارك وتعالى نعم. Et pour finir, il dit ici, Cheikh, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa parole dans ce hadith, dans lequel il y a donc là le partage des responsabilités pour chaque membre de la communauté de façon générale. Il dit Ala kullukum ra'in. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés sur les gens ou les biens qui étaient sous sa responsabilité. Taïeb? Non. Donc il dit les chers, en fait, il ne reste. Il n'y a personne qui n'est pas concerné par ce hadith. Au contraire, on est tous concernés de façon générale. Donc chacun d'entre nous, on a une responsabilité. Que ce soit la plus grande, qui concerne donc le gouverneur, le dirigeant d'un pays, d'un État. D'accord? Et autre que cela. Ou alors, une responsabilité qui est inférieure, telle que l'homme par rapport aux gens de sa maison. Jayed? Mais ça concerne donc l'homme qui à des gens qui sont sous sa responsabilité. Mais celui qui n'a personne sous sa responsabilité, qui est seul par exemple. Imaginons que la personne, elle est seule, n'a pas de famille. Est-ce que elle est responsable de quelqu'un du coup? Il dit le cheikh, oui. Elle est responsable de sa propre personne. Elle est responsable de sa propre personne. Comment elle va traiter sa propre personne? Et comment elle va se comporter avec elle? Est-ce qu'elle va faire les efforts pour l'épargner du châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en lui obéissant et en délaissant les péchés? Ou au contraire, elle va l'amener à la perte, au châtiment, en négligeant l'obéissance à Allah et en commettant la désobéissance à Allah, tabaraka wa ta'ala?
Ça veut dire que la personne qui a des gens sous sa responsabilité est responsable d'elle-même plus des gens qui sont...
Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que tous ceux qui sont responsables d'autres personnes, telles que le gouverneur ou le père de famille, l'esclave, la femme, etc. Donc non seulement ils sont responsables des choses que l'on a mentionnées dans le hadith, mais également d'eux-mêmes. Ça y est. Et on sera tous interrogés sur toutes ses responsabilités. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihada, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wal ilmu inda Allah. Wa akhiru da'wana an ilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallam taslima. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.